22 septembre et les banques Raiffeisen.
Vacarme, Lady Codor et le leur. Décodeur vagabond, toujours ailleurs d'une semaine à l'autre, vous le savez, mesdames et messieurs. Ce lundi, vous les trouvez à Comtet, en Valais, restaurant Petit Pois Carotte, dit. Et c'est bicolé, ça. C'est très, très joli.
Petit Pois Carotte, c'est chouette.
Un café-restaurant d'application géré par le site ORIF, Action ORIF, c'est Organisation Romande pour l'intégration et la formation professionnelle. Voilà.
Je l'aime beaucoup plus.
Quel quatuor de décodeurs sautillera sur les ondes rebondissantes et très innovantes de la première, ça vous l'avez remarqué depuis la semaine dernière. Eh bien, quatre esprits chenapants tout à fait adorables. Et je les nomme. Oui. Kaya Guner.
Oh.
Oh. Pascal Vincent.
Bonjour.
Frédéric Gérard.
Bravo.
Et Marc Donnet-Monnet.
Bonjour.
Vous m'avez l'air en forme. Ça va?
Oui, très bien.
Ça va, Prince.
Ah, c'est
Kaya porte un t-shirt rose. J'espère qu'on le verra sur une des 10 photos, parce que maintenant, il y a plus de photos sur la page Edicodeur.
Ouais.
Et ça, il y aura encore plus d'améliorations petit à petit, comme l'oiseau qui fait son nid. Bon. Alors, leur invité, un homme sans aucun doute épatant. Il fait partie des quelques 100 000 personnes aveugles et malvoyantes de Suisse. Et ce n'est pas seulement à l'écoute de la radio qu'il invente des images, c'est tout le temps. Il est vice-président de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, mesdames et messieurs, Pascal Lonfa.
Bravo.
Bonjour.
Bonjour. Je suis vraiment très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et ça me fait vraiment plaisir de passer cette journée et cette semaine avec vous.
D'accord, c'est le tout début, hein, vous avez dit.
Ouais, c'est le tout début, c'est lundi.
Ça c'est ce qu'il dit, mais en fait il peut pas nous voir.
Bon, vous allez bien ce matin, Pascal Lonfa, apparemment.
Oui, je vais bien.
Vous avez passé un bel été ?
J'ai passé un bel été, j'ai fait beaucoup de tandems, j'ai été en vacances au Portugal, j'ai bronzé un petit peu. D'ailleurs, les filles m'ont toutes regardé, m'ont toutes sollicité quand je suis arrivé.
Elles vous ont sifflé.
Ouais,
c'est comme ça maintenant, les filles. Hein. C'est peut-être comme ça que ça se passe.
Les filles, ça devient...
Et Donnet-Monnet était jaloux.
Mais bien sûr, mais il est tout le temps jaloux.
Bah, ça, c'est bien donné, mais il est tout le temps jaloux.
Ouais, mais parce que j'aime tellement les femmes.
Ouais.
Bon, Pascal Lonfa, nous sommes absolument ravis.
Il n'y a pas de problème, on ne va pas en parler.
De vous accueillir dans le monde...
C'est vrai que t'es moins bronzé que lui, c'est tout.
D'exclamation, de rire, d'édicodeur, je vous souhaite la bienvenue.
Bravo.
Merci.
Lundi prochain, nous serons joliment le 17 septembre, ça je crois que tous les calendriers vous le confirmeront même. Ouais. Les décodeurs seront à Fribourg.
Allez.
Et l'invité sera Mathieu Fleury, qui est à la fois le directeur de la FRC, hein, la Fédération Romande des Consommateurs Trice, bien entendu, également président de la Spirale à Fribourg, qui est un endroit de jazz, notamment de musique de concert. Alors, pour participer à ces émissions fribourgeoises, vous appelez tout de suite le 058-236-236-6. Oui.
Ça fait beaucoup de 6.
Ça fait pas mal de 6, mais c'est facile à retenir. Et c'est Francine Dain, notre assistante à Lausanne, qui vous répondra avec ses tortues, son accordéon, comme d'habitude.
Pour Fribourg, ça va faire Francine Dain donc.
Voilà, elle est placée. Elle est placée, il est content.
Voilà, ça c'est fait.
Ça c'est fait. Pascal Lonfa, vous êtes prêt pour le premier jeu ?
Je suis prêt.
Vous êtes prêt, les décodeurs aussi, c'est parti. Autour d'un verbe pour commencer. Que signifie le verbe retoquer ? Kaya Guner, vous le savez, bien sûr.
Bien sûr. Bonjour. Alors, le verbe retoquer désigne un chef qui perd un ou plusieurs points au go et mio et qui les récupère par la suite. Par exemple, si un restaurant a 20 points, ce qui est le maximum, ça fait 5 tocs au chef. Si l'année d'après, le restaurant n'a plus que 18 points, c'est pas mal aussi, le chef n'aura que 4 tocs. Mais s'il récupère un point l'année d'après, ça lui en fera 19 et on dira que le chef a été retoqué. Non. Mais la cuisine de haut niveau, c'est un métier de fou. Hein. On peut même dire que c'est un métier de toqué. Ça demande une disponibilité, un savoir-faire, une inventivité. Moi, je vois à la maison, moi, chez moi, rien que pour les spaghettis. Pour les spaghettis, pour qu'ils soient al dente, mais pas trop, c'est des années de travail et d'apprentissage.
Ah, c'est important.
Ah oui, c'est important.
Ah, bah oui.
Mais je crois que là, je tiens le bon bout. Je cuis chacun des spaghettis séparément. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de surprise. Je fais ça dans quatre casseroles. Ça prend un peu de temps à la cuisson. mais le résultat est parfait. Et si tu rates un spaghetti, c'est pas grave, t'en refais vite un autre derrière. Mais c'est vrai que ça prend un tout petit peu de temps. Pour un peu qu'on invite, je commence la cuisson deux jours avant. Bon, mon rêve, enfin...
Ils sont jamais chauds en même temps, alors.
Non, mais ça, c'est une autre technique, après. Mon rêve, enfin, mon idéal, ce serait d'avoir une très, très, très grande cuisine et plein de casseroles pour inviter plein de gens pour cuire des spaghettis al dente un par un. Mais bon, là, je vois grand parce que ça veut dire aussi qu'il faut avoir un cuisinier devant chaque spaghetti pour sortir et les goûter quand il est al dente. Et là, l'avantage, c'est qu'on a une assiette de spaghettis al dente plus vite que si on faisait quatre casseroles. On comprend mieux pourquoi le prix du plat de spaghetti dans un restaurant gastronomique est si élevé. Hein.
C'est ça.
On est perfectionniste ou on ne l'est pas. En ce qui me concerne, je ne suis pas encore du niveau de master chef, mais les spaghettis, je maîtrise.
Bon, ben, faut qu'on les goûte, hein, maintenant.
On ne vient pas plus vite.
Très bien. Pascal, Vincent, le spaghetti.
Bonjour.
C'est votre truc.
Le spaghetti samedi.
Vous ne le faites pas mou, quand même.
Ah, je ne le... Ah, je... Alors, ça... Ça dépend des moments, mais c'est...
Non, c'est interdit de trop cuire les pâtes. Hein.
Ah non, il ne faut pas trop... Pas,
ah non, 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 bah non trop cuire les pâtes.
Surtout pas le spaghetti.
La bonne cuisson, c'est qu'il faut jeter un spaghetti contre le mur. Quand il colle au mur, c'est qu'il est bien cuit.
Ah, il est trop cuit. Il est beaucoup
trop cuit.
Non, 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 le spaghetti italien ne colle pas au mur, mon
non.
cher.
Non,
il fait
à la limite, il rebondit.
Non, j'ai pas dit que c'était le spaghetti qui collait. Des fois, c'est le mur qui colle.
Oui, bon, ça c'est une autre histoire. On va revenir au verbe, peut-être. Le verbe retoquer, s'il vous plaît.
Parce qu'on n'a pas que ça à faire, j'ai l'impression. Alors, allons-y. Surtout que moi, je vais m'éloigner un petit peu des spaghettis. Parfois, il arrive que pour des raisons culinaires, on se défoule grave sur une pomme de terre.
Tiens donc.
Ah, voilà. Mais qu'on l'écrabouille, je veux dire. Qu'on la réduise en purée. C'est bon pour les nerfs, ça. Faire de la purée de pommes de terre. Avec plein de pommes de terre qui se défendent même pas. Et puis, c'est pas punissable par la loi. C'est mieux. Alors que faire ça avec son voisin, même si c'est une patate, c'est... Voilà.
C'est pas le même résultat.
Non, c'est plus... Mais parfois, il arrive qu'on éprouve des remords après coups et blessures parmentières. Toutes ces pommes de terre qui n'avaient rien demandé. Certaines avaient la... Attention, là, il y a du gag. Certaines avaient la frite. Et les voilà qui sont à ramasser à la petite cuillère, bonnes à accueillir des lacs en jus de viande pour les plus chanceuses. Le remords, c'est la seule raison pour laquelle je pense qu'un cuisinier un jour a inventé la pomme dauphine. Parce que c'est quoi une pomme dauphine finalement, sinon une patate qui s'est fait réduire en purée un jour, puis reconstituée en patate par la suite. C'est une sorte de seconde chance, quel gâchis. C'est le remords, moi je vous dis, il n'y a que ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors, il y a plusieurs techniques pour la reconstruction patatesque. Mais la plus académique se fait avec des retoques.
Voilà,
de grosses cuillères en bois, un peu plus rondes et creuses que des cuillères à soupe. Retoquer une pomme de terre, c'est donc lui redonner une forme valorisante quand elle était un peu purée sur les bords. C'est la façonner pour en faire des pommes dauphines. Voilà. Pommes dauphines qui ne faut pas confondre avec la dauphine d'une reine de beauté, qui bien souvent peut être un peu patate sur les bords. Même quand elle n'est pas en robe de chambre. Mais c'est valable pour les décodeurs aussi.
Ouais. Et ça existe aussi, les concours de monsieur. Est-ce qu'on parle du dauphin ?
Écoutez, il faudrait revoir toutes les émissions de Cousteau pour ça.
Pourquoi ?
Non, dauphin, c'est un... C'est lundi.
D'accord. On referme cette parenthèse, on revient à ce verbe toquer, n'est-ce pas, Pascal Lonfa. Et c'est Frédéric Gérard qui vous donne sa réponse.
Déjà ?
Oui.
Retoquer vient du français arrête et de l'anglais ok, hein, que l'on peut lire dans arrête de dire ok à tout. Arrête, ok, retoquer, oui. Oui, je le précise car certains linguistes mal renseignés affirment que ce verbe vient de la poste, hein. Oui, le facteur sonnant toujours deux fois. Mm-hmm. Hein, quand il n'y a pas de sonnette, il toque et retoque.
Voilà.
Ah. Eh ben non.
Non.
C'est pas de là que ça vient, car retoquer signifie rejeter une loi ou une candidature. J'ai dernièrement déposé ma candidature, car dans candidature, il y a candide, hein, pour devenir le prochain mari de la merveilleuse Marie-Louise Parker.
Ah, vous avez fait ça.
Oui.
Vous avez fait le pas.
Oui, je l'ai. Bah, actrice bien. Vedette, je termine de la merveilleuse série Wits. Oui. Une actrice sublime. Vraiment, je kiffe à donf. Eh bien, j'ai été très curieusement retoquée.
Oui.
Oui, je pense qu'elle n'a pas bien compris qui j'étais vraiment. et qu'elle n'a visiblement pas considéré à leur juste valeur toutes mes immenses qualités. Qu'importe, je retenterai ma chance. À vrai dire, j'ai été personnellement souvent retoqué. Par exemple, quand j'ai tenté de promouvoir cette loi pourtant pleine de bon sens, stipulant que pendant les grands événements sportifs, le contrôle de la télécommande devait m'être confié sans faire d'histoire, eh bien, j'ai voilà. été retoqué. Il est vrai que dans l'alinéa 2 était précisé que la préparation du plateau télé ne m'incombait pas et que l'alinéa 3 invitait ma compagne à m'apporter une bière de temps en temps. Cette loi était peut-être un peu astreignante, mais bon, elle allait quand même hein, dans le sens du progrès. Hein. Et le progrès, c'est ce qui sauvera le monde. Alors tu me l'apportes, ta bière, ou bien ?
Ou bien quoi ? Alors, voilà. Ça fait 3 réponses, voici la 4e et dernière, parce qu'elles l'ont fait. Marc Donnet-Monet.
Le verbe retoquer appartient au monde de la haute couture. Une toque, on le sait, est un bonnet porté par les cuisiniers, par les femmes, à des fins... Là, attends, excusez-moi, mais là, au moment où j'étais en train d'écrire cette définition sur mon ordinateur, il y a un truc qui s'est passé. Ah. Et qu'il y a un ouvrier paysagiste qui est venu actionner une souffleuse tout près de mon bureau pour nettoyer les aiguilles qu'il y a dans notre cour. Parce que je vous explique la situation. Il y a notre ancien voisin qui, à 30 ans, a planté un cèdre au meilleur endroit où il pouvait le mettre, c'est-à-dire à 50 cm du bord de sa propriété. Ça, c'est le truc à faire. Hein. Si vous voulez planter un arbre une fois, le mieux à faire, c'est de le mettre juste au bord de votre propriété, à 50 cm du terrain des voisins. Parce que sinon, il y a le risque de ne pas emmerder assez de monde. Hein. Voilà. Donc cet arbre qui a poussé fait désormais environ 150 mètres de haut.
Ah ouais.
Et laisse tomber entre 8 et 10 tonnes d'aiguilles par semaine dans notre cour. Suite à un procès qui a duré environ 25 ans... Bon, j'étais pas là au début, hein. Moi, j'étais chez mon papa et ma maman. Mais bref, suite à un procès qui a duré très longtemps, le nouveau propriétaire, fort gentiment d'ailleurs, s'est engagé depuis quelques années à faire nettoyer régulièrement notre cour, d'où la souffleuse.
Oui, oui.
Donc avant, j'avais les aiguilles, maintenant j'ai les aiguilles plus le bruit. Hein. Voilà, donc actuellement, au moment où j'écris cette définition, il y a un réacteur de Boeing qui se trouve à 2 mètres de moi, qui tourne à pleine puissance... actionné par un ouvrier qui ne sait pas que de l'autre côté de la vitre, dont le store a été rapidement baissé en pure perte, se cache un être humain qui tente de réfléchir. Bon, ça dure que 5 minutes, après il n'y a plus d'aiguille, mais comme c'est pile au moment où j'écrivais la définition de retoquer, je tenais à le dire, comme ouais. ça j'ai une excuse si par hasard j'ai pas trop d'idées. Ouais. Ah, il est parti, voilà, la cour est nettoyée, je vais juste lui dire merci. Merci beaucoup, monsieur, au revoir. Là, je vais lui dire merci, c'est pas de sa faute. Hein. Je lui donne une bouteille des fois, bref. Pas lui qui a planté le cèdre, celui qui a planté les cèdres, il est parti, rongé par le remords, traqué par les... Le cèdre.
C'est carrément un cèdre.
Un cèdre. Ah non, il essaie vraiment, là, j'ai des aiguilles juste dans le slip. Hein. Je peux vous dire, là, j'ouvre
ça,
ma voiture.
C'est l'acupuncture, ça.
Ouais, exactement. Mais il est pas... Non, mais il s'est enfui, celui qui a planté le cèdre. Mais là, il est traqué par les polices du monde entier. Mais sa place est déjà réservée au tribunal pénal international. Bref, donc on est là, on est... Bah,
ah, ouais, retoqué, haute couture.
Retoqué, oui, mais on est arrivé au bout de mon temps de parole.
Attends, faut quand même finir.
Donc je vais pas faire long. Oui. Retoqué dans le monde de la haute couture, c'est refaire une coiffure. Couper les cheveux qui en ont en trop, enlever tout ce qui dépasse.
Ouais,
donc exactement ce qu'il faudrait faire avec le cèdre qu'il y a juste à côté de chez nous. Voilà.
Parallèle, très bien.
Les boucles, les bouclés.
Quelle histoire. Hein. Alors... Je répète, n'est-ce pas? Je vais faire un petit résumé, Pascal Lonfa, puis vous allez choisir la réponse qui vous paraît convenir pour définir ce verbe retoquer. Kaye Guner nous a parlé d'un chef qui perd des points et quand il en récupère, eh bien, il est retoqué.
Yes.
On ne dit pas qu'il est détoqué, mais en tout cas, il est retoqué.
Non, ouais, absolument, d'accord. Il est retoqué.
Pour Pascal Vincent, retoquer, c'est redonner une forme valorisante à la patate splatch.
Exact.
Hein, voilà, on peut faire ça comme ça. Splatch. La pauvre patate écrabouillée, un peu molle comme ça dans l'assiette, eh ben, elle reprend une espèce de consistance.
Si on veut faire des pommes dauphines, voilà.
Par exemple. Frédéric Gérard, oui. Il nous dit que retoquer, c'est rejeter une loi ou une candidature.
Exactement.
D'accord.
Oui.
Et pour Marc Donnet-Monet, retoquer, dans le joli monde de la haute couture, c'est refaire une coiffure, c'est recoiffer, c'est rafistoler un petit peu les mèches qui vont de traviole.
Ouais.
Voilà, Pascal Lonfa.
Ben voilà, j'hésite entre Pascal Vincent et Marc Donnet-Monet, mais j'ai déjà entendu cette... Je pense que c'est Pascal Vincent.
Pascal Lonfa.
Comme ça,
vous parliez de la patate à revaloriser, c'est ça?
Oui.
C'est ça, oui. Alors vous êtes bien aimable. Oui, il est content, lui. De temps en temps, il dit des mensonges, puis on pense qu'il dit la vérité.
On est payé pour ça.
C'est vrai. Non, la bonne réponse était celle de Frédéric Gérard.
Mais oui, mais oui.
D'accord.
C'est dingue.
Retoquer veut dire rejeter, désapprouver, en parlant d'une loi ou d'une candidature. Mm-hmm. Hein, retoquer une proposition de loi, par exemple. Oui. On n'utilise pas. Peut-être qu'un jour, on utilisera. Grâce au décodeur, on apprend des mots. On les oublie des fois très vite aussi.
Mais ça montre que notre invité est sensible et qui compatit au sort de la patate.
Oui, de toute évidence. Et ça tombe bien de parler de la patate alors qu'on est au petit pois carottes.
Ben voilà.
Parce que la purée ferait bonne affaire ici.
Oh, mais vous savez, les petits pois et les carottes ne sont pas mieux lotis que les pommes de terre.
Non, pas toujours.
Il faut avoir aussi pitié des petits pois et des carottes.
On peut les écrapouiller et les couper en morceaux aussi. Ouais. Bon, j'ai l'habitude de dire, parce qu'elles l'ont fait, que quand on laisse passer le premier point, c'est de bon augure pour la suite.
Oui.
Donc on verra ce que ça donne et le public est totalement avec vous, c'est clair. Tel de curieux pinsons, les décodeurs chantent, Pascal Lonfa, vous le savez ça, hein, une fois par jour. Pour vous, en l'occurrence, cette semaine, il va casser le mobilier, Marc Denet-Monet. Et ces jolies chaises en plastique transparente avec leur petit coussinet carotte. Non mais dis donc. Alors, bon.
C'est toujours classe.
Très bien. Non, ça fait classe.
Bah oui,
ça
non, c'est classe. Très bien, c'est très bien.
Alors, les décodeurs vont chanter, vont repenser le titre d'Antoine, Je l'appelle Cannelle. Que vous connaissez, hein, probablement, ça va vous dire quelque chose, vous allez voir. Vous allez entendre quatre couplets, parce qu'elles l'ont fait.
Qu'est-ce qui devient, Antoine ?
Et il faudra choisir le couplet qui appartient à la chanson comme on la connaît. Ah, oui, c'est ça.
C'est ah, c'est lui, je croyais que c'était...
Quatre décodeurs, debout, dans ce café-restaurant Petit Pois Carotte, à Conso.
Petit Pois Carotte !
Elle a les doigts sur le clavier.
Elle a les doigts sur le clavier.
Et le sourire aux lèvres. Et elle va vous accompagner, garçon. Sandrine Viglino.
Viglino.
Kaya Gunner.
Je l'appelle Cannelle parce que son corps est bronzé. Je l'appelle Cannelle parce que ses cheveux sont dorés. Je l'appelle Cannelle parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté.
Yeah. Marc Denet-Monet.
Je l'appelle Cannelle car elle a de belles pommes. Et on met de la cannelle justement sur les tartes aux pommes. Moi j'aime pas la cannelle, mais je peux faire une exception. Si vous voulez savoir comment je la touche, il faut m'embrasser sur la bouche. Je l'appelle Quenelle parce que c'est ma préférée et que j'aime les quenelles de broche. Moi je préfère les quenelles aux petits poissons panés. Et si je l'appelle comme ça, eh ben oui les gars, c'est qu'elle vient de Nantua.
Et Pascal.
Je l'appelle baleine, et encore c'est gentil. Je l'appelle baleine, et encore je suis poli. Je vous parle pas de son haleine qui rappelle la Yoli. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce qu'elle me marche sur le pied.
Avec un très joli couture, avec ce joli petit moment entre deux couplets. Frédéric Gérard, magnifique.
Comment vous faites ça?
Et les décodeurs, moi, vous faites tout ça très, beaucoup mieux que moi, évidemment. C'était bien, n'est-ce pas, Pascal Lonfa?
Oui. Ah oui, c'était super.
Alors, quel couplet ? Qui chantait le couplet d'Antoine ?
Alors, je pense que le premier couplet.
Le premier Kaya Gunnar. Mais bien joué, le voilà le premier point ! Le premier point pour Pascal Lonfa. La suite des points, vous les attraperez tout à l'heure. Sur les ondes de la première, c'est François V qui arrive. Nie Lubi Atopusov. Hein, on se rappelle bien, nouvel album qui sera d'ailleurs verni le 5 octobre prochain, c'est un vendredi à l'Octogone de Puyi. S'appelle La Tentation du sel et il y a notamment, il a fait tout un voyage. Hein, on l'a rencontré, on l'a eu dans les décodeurs, il nous a raconté tout ça. Il est passé par la Pologne notamment et il a chanté, imaginez cette chanson qui est entre français et polonais et Nie Lubi Autobusów. C'est en gros, voilà, il n'aime pas l'autobus, il préfère le tram. Et on écoute bien, on arrive à comprendre, presque un peu de polonais. François V, on le salue bien.
Je deviens fou, Vicha Wesh Krulika. Oui, deviens fou, Vicha Wesh Krulika. Vicha Wesh Krulika. Nie lubi autobusów, woli, woli tramwaj. Nie wiem dlaczego.
Là, donc la margarita, pas loin non plus. Voici Pascal Lonfa, un jeu avec une boisson à l'intérieur. Voilà. Une nouvelle boisson vient d'être mise en vente en France. Elle s'appelle DSK. Ça ne s'invente pas, hein, sûrement. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est la question que je pose au décodeur, bien sûr. Pour répondre en tout premier, je donne la parole à Pascal Vincent.
Oui ! Money is money. Ça n'a strictement rien à voir avec le DSK qui a défrayé la chronique. La chaîne d'hôtel Sofitel vient de commercialiser en France son propre soda nommé DSK. Et ce n'est pas une faute de petite frappe, j'ai bien dit soda. DSK, les initiales de Drink Sofitel Cola. Voilà. Cola avec un K, donc, pour ne pas avoir de procès avec les concurrents. Il paraît qu'ils ont quand même hésité à écrire cola avec un Q. C'était tentant. Mais ils auraient risqué un procès avec Q-tips. Au moins eux. Donc ça explique le pourquoi du comment. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le vilain monsieur, même si cette boisson tonique est vendue en Strauss-canette de soda.
Oh, oh les petites Strauss-canettes.
C'est ce qu'ils disent en tout cas dans leur dossier de presse.
Alors là,
toute une histoire. Ah oui, on utilise tout, hein.
Ça, c'est un sacré lundi.
Ouais. Ah oui, c'est un bon début. Marc Donnet-Monet.
Il s'agit d'une boisson produite dans la Creuse aux vertus soi-disant aphrodisiaques, puisqu'elle est composée de kiwi et de safran. Oh, DSK, ouais. Donc ça veut dire drink safran kiwi.
Ouais.
Bon, fallait déjà se creuser un petit peu, parce que moi, j'avais jamais entendu dire que le kiwi et le safran étaient aphrodisiaques. D'ailleurs, ça marche jamais, enfin, dès que je sais pas vous, hein, mais moi, ces aliments soi-disant aphrodisiaques, les crevettes, le gingembre, je sais pas.
La fondue.
Ouais, je sais pas.
Ah non, la fondue.
Moi, le seul truc, le seul truc qui marche vraiment d'expérience, c'est l'alcool.
Ouais, jusqu'à un certain point.
C'est un petit, jusqu'à un certain point, mais là, un petit verre et hop. Oh, bonjour madame. Je peux vous faire un petit bec? Juste un petit mimi dans le cou. Oh, mais qu'elles sont compliquées. Juste un petit câlin. Il faut toujours faire des manières. On est marre, faut toujours passer par un petit processus. Des fois, je suis fatiguée. Viens, Caline. Caline, c'est ma chienne. Toi, t'es gentille. Fais un bec à papa. Madame, je ne vous dis pas au revoir. Voilà, donc c'est une boisson de
oui,
kiwi safran.
On a compris. Merci. La boisson DSK dans les mains de Kaye Guner.
Oui, dans les mains, écoutez. Hein, voilà, oui, tu as raison, Marc. Vertu aphrodisiaque, c'est bien dit. Il y a effectivement dans la boisson DSK des kiwis, mais pas trace du tout de safran et encore moins de gaz. Les lettres DSK ne sont pas une abréviation de drink safran kiwi, comme tu viens de dire, mais c'est une boisson composée au mixeur d'une banane, de deux gros kiwis et surtout de l'ananas, hein.
Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, ça.
Un mineur niait que sa nana Agnès n'aimait pas les ananas.
Non.
Oh, dis donc.
C'est voilà. Bon, ça.
Frédéric Gérard, voulez-vous prendre la relève?
Écoutez, alors, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais enfin, bon.
Oui, je pense qu'on aimerait bien vous
écouter. C'est déjà très haut. Le DSK est un cocktail à base de bananes écrasées, de concombres. En rondelles et de jus de carottes. DSK est l'abréviation de dansons. Non, ça, je ne peux pas dire. Non.
Dansons.
C'est pas dansons la carbaïole.
Non, mais je ne peux pas dire. Je veux dire,
dans son cas. Dans son cas.
C'est plus difficile.
Voilà. Bon, oui, oh là là, mais franchement. Vous vous rendez compte, Pascal Lonfat. Bon, je résume tant que je peux, hein. Alors, on parle d'une
quand
boisson.
J'adore quand elle joue l'innocent. Moi, j'adore ça.
Quand tu la connais.
Mais non, laissez-moi ma naïveté, s'il vous plaît.
Je la connais quand même pas mal.
Alors, c'est une boisson mise en vente en France qui s'appelle DSK pour Pascal Vincent. Une boisson imaginée par la chaîne Sofitel. C'est Drink Sofitel Cola. Pour Marc Donnet-Monnet, cette boisson est née dans la Creuse. Elle est aphrodisiaque. Elle s'appelle Drink Safran Kiwi. Kaya Guner nous dit que le DSK, c'est une banane, deux gros kiwis et de l'ananas.
Oui, oui.
Voilà, on n'en dira pas plus. Et pour Frédéric Gérard, on parle d'un cocktail, hein, DSK. Ouais. Banane écrasée, concombre en rondelle, jus de carotte. Ouais. DSK. Il n'a pas voulu nous dire exactement ce que ça veut dire.
Dans
mais
son.
Ça doit être un peu troublant. Pascal Lonfat, c'est à vous.
Sofitel, je vais déjà l'écarter.
Oui, d'accord,
parce que
ça, je pense que vous avez raison. Oui.
Je dirais que c'est Frédéric Gérard.
Frédéric Gérard, un cocktail.
Non.
Mais c'est vrai, on aurait pu. Il n'a pas voulu dire ce que ça voulait dire, DSK. Non, mais c'est Marc Donnet-Monnet, figurez-vous. DSK, et c'est vrai, hein, c'est une boisson produite dans la Creuse. Oui. Une boisson gazeuse à base de kiwi, de safran. DSK signifie drink, safran, kiwi. Les producteurs de cette boisson jouent avec les vertus prétendument aphrodisiaques du safran. Et puis évidemment sur le terme DSK, parce que voilà, ça va.
Oui, mais dès qu'on dit dans la Creuse, là ça fait piège tout de suite. On se dit ça peut pas être ça.
Je doute que nous en goûtions ici au petit pois carotte.
Aride, non.
À Comté, non plus aride, non, d'accord. Ah, nous nous retrouvons en tout cas après les infos, ça c'est sûr, à tout à l'heure.
L'heure avec Retraite Populaire et ses solutions de prévoyance, retraitepopulaire.ch.
RTS.
La première.
Il est midi.
RTS Info, Antoine Drou.
La police lausannoise orpheline, ou presque, depuis que le municipal Marc Vieumier a annoncé hier soir vouloir se décharger de la sécurité publique. Une annonce qui survient alors que de nouvelles bagarres ont impliqué plusieurs dizaines de personnes hier à l'aube dans les rues de la ville. Une annonce qui provoque surprise et déception au sein de l'association des fonctionnaires de police de la ville de Lausanne. Écoutez son président, Jean-Denis Génaud.
J'ai encore vu Monsieur Vieumier vendredi dernier. Et rien ne laissait apparaître une pareille décision. Comme président des fonctionnaires de police de la ville de Lausanne, je ne peux que regretter cette décision parce que de la part de M. Vieumier, nous avions une oreille attentive et il cherchait à soutenir les policiers de Saint-Ouen. Je pense que ça met aussi la pression sur la municipalité. Avec les effectifs actuels, quand on sait qu'il manque en gros 160 policiers à Lausanne, la sécurité des policiers et des agents n'est plus assurée.
Pour son successeur, est-ce que vous avez un profil souhaité ?
Non, écoutez, pour nous, ça n'a pas d'importance. Notre partenaire, c'est la municipalité de Lausanne. Et on sait que toute décision, par exemple, pour une augmentation des effectifs, est contrainte par les budgets qui sont donnés en ville de Lausanne. Et c'est une décision de la municipalité.
Jean-Denis Génaud qui a appelé ce matin Jérôme Jeannin. Le remplacement de Marc Vieumier devrait être abordé lors de la séance du conseil municipal de ce jeudi. Des artificiers britanniques sont arrivés ce matin au domicile de la famille victime de la tuerie de Chevaline en France voisine. Plus tôt dans la matinée, la police londonienne avait élargi le périmètre autour de la maison qui abriterait des substances potentiellement explosives selon une source proche de l'enquête. Quant à la fillette de 7 ans, rescapée du massacre, elle est toujours sous sédatif, indique ce matin le procureur de la République à Annecy. Il espère pouvoir auditionner ce témoin dans les prochains jours. Le canton des Grisons veut organiser les Jeux Olympiques d'hiver 2022. Il a présenté sa candidature ce matin à la presse. Une candidature qui coûtera à elle seule 60 millions de francs. Rouven Guessa, vous êtes en direct de Coire. Les Grisons misent tout sur Davos et Saint-Moritz.
Oui, deux localités qui accueilleront la plupart des infrastructures nécessaires. Il faudra en particulier moderniser les installations existantes ou encore améliorer les transports. Mais le canton l'assure, tout ce qui sera construit pourra être pérennisé et profitera aux générations futures. Mais d'ici là, le chemin est encore long. D'abord, c'est le peuple grison qui devra dire s'il veut de ces jeux lors d'une votation le 3 mars 2013. Et en cas de refus, en particulier des communes de Davos et de Saint-Moritz, eh bien, tout s'arrête. Mais pour l'instant, le conseiller d'État grison, Hans-Jörg Traxel, ne cachait pas son enthousiasme ce matin en détaillant la pré-candidature de son canton. Les Grisons, Suisse Olympique et surtout la Confédération sont prêts à investir massivement, on l'a dit, 60 millions rien que pour la candidature. Et si le choix du CIO en juin 2015 se porte effectivement sur les Grisons, eh bien les Jeux coûteront 2,8 milliards avec un déficit prévu de l'ordre du milliard de francs, une perte que la Confédération est prête à éponger.
C'est aujourd'hui à 14h30 que débutera la session d'automne des chambres fédérales à Berne. Un menu copieux, un menu varié attend nos élus durant les 3 prochaines semaines. Une proposition quasi révolutionnaire sera soumise d'entrée de jeu au Conseil national, Romain Clivat.
Oui, les élus du peuple diront en début de séance s'ils sont prêts à augmenter le nombre de conseillers fédéraux de 7 à 9. Une proposition du canton du Tessin censée notamment résoudre le casse-tête de la représentation italophone au gouvernement. En première semaine, il sera aussi question de politique d'asile du côté du Conseil des États. Alors que le débat a enflammé les travées du Conseil national en juin dernier, on s'attend à un débat plus feutré à la Chambre haute. L'attribution du minimum vital à tous les requérants, qu'ils soient en cours de procédure ou déboutés, a été décidée au Conseil national, mais le Conseil des États pourrait se montrer moins restrictif. C'est demain également que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, célébrera les 10 ans de l'entrée de la Suisse dans les Nations Unies avec un discours devant l'Assemblée fédérale. Et autre gros dossier, la politique agricole. En deuxième semaine, celui-ci, le Conseil national devra arbitrer entre une vision d'une agriculture qui produit et une autre qui considère que la protection de l'environnement fait partie des missions essentielles des paysans.
La chaîne du bonheur réitère aujourd'hui son appel aux dons en faveur de la Syrie en raison des besoins croissants des réfugiés syriens. La fondation, qui a déjà récolté 1,3 million de francs depuis le mois d'août, concentre son aide sur la distribution de biens de première nécessité, sur les soins médicaux ainsi que la protection des enfants. Les violences en Syrie qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour d'une réunion ministérielle au Caire, réunion qui voit l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Iran se mettre autour d'une même table. Le nouveau médiateur international, l'Akdar Brahimi, se trouve aussi dans la capitale égyptienne. Et puis à Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se penche également sur ce dossier. L'accession du Kosovo à sa pleine souveraineté assombrie par des révélations de la Serbie sur un trafic présumé d'organes durant le conflit serbo-kosovar de 98 à 99. Alors que le groupe qui a supervisé le Kosovo depuis la déclaration de son indépendance il y a 4 ans doit être dissous aujourd'hui, Belgrade a affirmé hier disposer d'un témoin ayant participé à ce trafic. Et puis 10 ans après avoir mis en place la prison de Bagram, les États-Unis ont transféré aujourd'hui l'établissement aux autorités afghanes. 3100 détenus y séjournent. Un transfert qui a été l'objet de longues tractations entre Kaboul et la coalition occidentale. Des nouvelles du ciel avec la météo de Carole Dubuis.
L'après-midi restera bien ensoleillé malgré quelques voiles nuageuses élevées. Des cumulus vont se former autour des crêtes. Quelques orages isolés pourraient éclater sur le nord du Jura et le long des Préalpes. 26 degrés en plaine, 28 en vallée centrale, des températures douces pour la saison, idem en montagne avec 0 à 3600 mètres. Demain, dès la mi-journée, le ciel va se charger depuis le Jura où la pluie pourrait déjà tomber. En soirée, les précipitations toucheront toutes les régions. Une perturbation apportera du mauvais temps mercredi ainsi qu'une nette baisse des températures.
La météo vous est offerte par les dentistes et hygiénistes des cliniques Adam, adam.ch.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Berne-Fribourg, le dépannage d'un poids lourd se poursuit et la bande d'arrêt d'urgence est toujours bloquée entre Flamatt et Gain en direction de Fribourg. Et en ville de Bulle, la route de Ria est fermée dans les deux sens entre la rue de Château d'en Bas et la Grand-Rue en raison d'un accident.
Ça mijote dans les cuisines et ça sent bon d'ailleurs. Ici aussi, petit pois carotte à Comté, petit pois fin jaune comme ça et carotte au beurre. Ça peut être très très bon à part ça, c'est vrai. Ça c'est bon. Pas que pour les petits lulus. Bon pour le teint des décodeurs par exemple. Cette semaine, Kaya Gunner, Pascal
bonjour,
Vincent,
bonjour.
Frédéric Gérard, Marc-René et Monet. Et leur invité, le vice-président de la Fédération Suisse des aveugles et malvoyants, Pascal Lonfa.
Bravo.
Pascal Lonfa, vous attaquez cette deuxième partie d'émission en compagnie de Pascal Vincent. Nous sommes donc toutouilles, messieurs. Un Pascal, deux Pascaux.
Oui.
Voilà, on peut essayer comme ça, on vous écoute.
J'attends la dernière seconde. Pascal Lonfa, bonjour, je vous adore et pas uniquement à cause de votre prénom. Vous êtes vice-président de la Fédération Suisse des aveugles et malvoyants, c'est bien ça.
Oui.
De quoi cette fédération a le plus besoin aujourd'hui ?
La Fédération suisse des aveugles et malvoyants a le plus besoin, je dirais, de compréhension, puisque au jour d'aujourd'hui, quand on voit les démantèlements de l'AI et tout, eh bien, on doit se battre et je pense qu'on a besoin de personnes qui nous aident et qui se battent avec nous. Voilà.
Et ben on va essayer justement, parce que vous savez, quand on a la chance de ne pas avoir de soucis, on est un peu égoïste, on ne s'intéresse pas forcément à ceux qui en ont, parfois par crainte, parfois par ignorance, souvent. Et puis, Il y a également un tas d'idées préconçues qu'on devrait pouvoir comme ça en débattre. Enfin voilà, on va essayer de mettre ça un petit peu à plat. Je vais vous proposer quelques-unes de ces idées préconçues qu'on peut se faire et voir quelle est votre réponse là. Est-ce vrai, par exemple, que les aveugles, les malvoyants, ne font pas forcément plus d'économies que les autres à la fin du mois, même s'ils ont souvent des trucs à l'œil?
Alors là, je vous rassure, des trucs à l'œil, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'on paye nos impôts, notre électricité. On économise peut-être sur la lumière, c'est vrai.
Mais alors justement, là, vous lisez en braille. Est-ce vrai qu'un aveugle qui aime lire un moment au lit avant le dodo n'a pas besoin d'éteindre la lumière quand il veut dormir, mais simplement mettre des gants?
Peut-être, oui, quand on veut me parler, on met des gants. Mais la lumière, on l'éteint, ça, c'est un fait.
C'est bien. Est-ce vrai que lors du 1er avril, on a exceptionnellement le droit de subtiliser un chien aveugle au bout de sa laisse et de le remplacer par un pitbull?
Oui, on peut le faire. Moi, j'ai un chien guide, mais je vous défie de rentrer chez moi parce qu'il vous fera la fête.
Est-ce qu'un aveugle, après une bonne fondue, a le droit de repartir en se guidant avec un bâton en kirsch?
Là, vous touchez mon point faible, j'adore la fondue.
Mais et le kirsch?
Non, je préfère la vouillamine.
Ah.
Le kirsch, je laisse aux Suisses-Allemands.
Bon, merci, je dirais pas qu'on y voit tous beaucoup mieux, plus clairement maintenant, mais le cœur y est. Bienvenue au décodeur.
Bravo. Merci.
Et...
Pour moi, ça fait partie intégrante du jingle.
Ouais, quand vous êtes là, Frédéric Gérard et Pascal Vincent, il y a Margarita qui est là. Il n'y a pas de doute, hein, maintenant, c'est attaché à ce nouvel adjectif.
Moi, ça me fait penser à ça, moi.
Bon, un adjectif ici, Pascal Lonfa, quatre décodeurs pour vous l'éplucher, si je puis dire. Que signifie l'adjectif acridien? Alors, Marc Tonnet-Monnet.
Les Acridiens étaient un peuple qui vivait en Espagne, mais à l'époque, c'était pas l'Espagne. À l'époque, c'était on sait pas quoi, et qui a été complètement anéanti par l'Empire romain. Ils n'ont pas résisté, contrairement à Astérix. C'est un peuple réputé pour être pacifique, non violent. Autant dire qu'ils n'ont pas fait long, parce qu'à l'époque, les conflits étaient nombreux, alors que maintenant, en 2012, tout le monde s'entend très bien.
Ah oui.
C'est pas comme s'il y avait encore des guerres, des trucs comme ça. Des fois, il y a un mec qui arrive avec une souffleuse comme ça, mais je veux dire, il suffit de pas s'énerver. L'avantage de se plonger dans l'histoire, des fois, c'est que ça permet de relativiser nos petits soucis, de prendre conscience, si on en doute, de l'extrême brièveté de notre passage sur Terre. L'autre jour, j'ai regardé une émission sur Ötzi, vous savez, l'être humain momifié qui a été trouvé dans le Tyrol à 3000 mètres d'altitude, mort il y a 5000 ans. Mm-hmm. 5000 ans! Sur lui, on a retrouvé un arc et 12 flèches, une hache, un couteau à lame de silex, à sa ceinture, une poche remplie de champignons, à usage probablement médicinal, et il portait plein de vêtements, un pagne en peau de chèvre, une grande veste en cuir de chamois, des jambières attachées à la ceinture par des jartelles. J'aime bien ce outil. Un bonnet en fourrure d'ours, des chaussures faites avec la peau d'ours et de cerf, des petits sacs contenant un matériel pour faire le feu, silex, fragments de pyrite. Là, je lis Wikipédia, merci. Par contre, on n'a pas retrouvé le seul truc qui nous semble vraiment indispensable quand on part en voyage, c'est une brosse à dents. Ça a été inventé plus tard, la brosse à dents. Bref, Ötzi, je l'aime bien parce que d'habitude, l'archéologie, ça ne me fait pas rêver parce qu'on voit un pot de terre par-ci, un silex par-là, un tibia qui a été retrouvé dans un coin. Et là, on voit un être humain qui a été retrouvé avec tout son matos sur lui. On l'imagine en train de gravir cette montagne, en train de se battre, en train de mourir. Moi, c'est... Ötzi, si tu nous entends. Acridien est un adjectif qui signifie non-violent pacifique. Voilà.
Ah bon ?
Voilà, c'est...
Au bout du compte. Très bien. Acridien, deuxième, Frédéric Gérard.
Oui, c'est au philosophe grec.
Non, mais j'avais déjà donné la réponse au début.
Mais c'est ça, oui. Donc,
mais je crois que c'est parce que je n'ai pas la bonne réponse. Alors, j'ai...
Vous auriez pu vous taire, d'accord, parce que moi, je m'étais restée sur la dernière,
d'accord,
finalement.
Ouais. Bon. Écoutez, choisissez la mauvaise réponse.
Bon, vous éliminerez Marc Donnet-Monnet, Pascal Lonfa, tout de suite. Oui. Bon, écoutez donc Frédéric Gérard.
C'est au philosophe grec Acri Dionysos que l'on doit l'adjectif acridien, qui signifie moyen, sans grand intérêt, passable, un peu nul. Mm-hmm. Mais Acri Dionysos, contemporain de Socrate, était donc un philosophe moyen, sans grand intérêt, passable, un peu nul. On se souvient de lui quand on s'en souvient, ce qui est relativement rare, grâce à quelques traits d'esprit moyens, sans grand intérêt, passables, un peu nuls, qu'il avait gravés sur quelques bouts de marbre de qualité assez moyenne. En le lisant, on apprend donc qu'en faisant la vaisselle, il avait coutume de dire « je pense, donc j'y suis ».
J'ai entendu ça, hein.
Ce qui est assez moyen, mais sans grand intérêt philosophique. On apprend aussi que se sentant moyen, sans grand intérêt et assez nul, il avait l'habitude de s'asseoir sous un pommier en espérant qu'une pomme ne lui tombe sur la tête pour provoquer un déclic. C'est donc à Acri Dionysos que l'on doit cette célèbre expression « Eureka, je n'ai rien trouvé ». Au dire des spécialistes, en vieillissant, Acri Dionysos ne s'est pas amélioré et la dernière pensée, si l'on peut dire, qu'il a gravée avant de mourir en témoigne, je vous la livre, acheter des olives et du fromage, se laver les pieds et changer de pommier.
Changer de pommier, ah oui, pas mal, d'accord, Acridien. Troisième possibilité, Pascal Vincent.
Acridien, du grec ancien acris, acridis, égale la sauterelle. Voilà. Vous ajoutez le suffixe ien, ça donne un mot signifiant sauterelle, qui est relatif aux sauterelles et aux criquets, donc par la même occasion. Il y a des régions entières en Afrique où les cultures sont menacées, voire ravagées par des invasions acridiennes, et notamment les invasions du criquet pèlerin. Nous encore ici en Suisse, ça va, les seuls risques acridiens sérieux qui nous concernent sont dus à l'équipe de Grasshopper. Voilà, on va pas non plus trop la ramener pour se faire plaindre. À l'échelle mondiale, il y a plus malheureux. La Thaïlande a également connu un petit souci acridien, d'une autre forme encore. Vous savez que là-bas, on en consomme des sauterelles. C'est d'ailleurs excellent, à l'apéro, en guise de cacahuète. Mais alors, il ne faut pas les lancer pour les rattraper avec la bouche comme on fait avec des cacahuètes, hein, parce qu'il y en a qui peuvent s'échapper comme ça. Si elles n'ont pas été bien tuées, elles en profitent pour... Ah oui. Et justement, le problème thaïlandais a été que comme ça se consomme en grande quantité, que même les touristes aiment y goûter, en faisant surtout des photos qui feront plus tard le tour du bureau. Et je te montrerai ma photo de moi en Thaïlande quand je mange des sauterelles. Oui, ça fait 3 mois que tu ramènes tes photos. Oui. Alors, certains paysans qui les élevaient, ces petites sauterelles, ont remarqué que ça se tuait beaucoup plus rapidement avec des insecticides. Voilà, provoquant du coup quelques intoxications chez les consommateurs. C'est vrai, des empoisonnements, ça a été même interdit un temps. Sinon, il y a mon voisin qui va se marier la semaine prochaine. Et aussi ma moto, à qui je dois remettre de l'huile. Mais j'ai encore un peu de temps pour ça. Je me demande si je ne vais pas m'acheter un Yuka la prochaine fois que je vais à Ikea.
Voilà.
Oui, excusez-moi, j'ai un peu tendance à sauter du Coca Light. C'est mon côté acridien.
Ah, voilà. Kaya Guner, s'il vous plaît, une dernière réponse.
Oui, cela me plaît. Alors, l'adjectif acridien se rapporte à tout ce qui touche de près ou de loin à la crevette. Par exemple, on peut dire une odeur acridienne, ce qui signifie que ça sent la crevette. Il va pas bien le pommier, là. Un pied acridien est un pied qui sent la crevette. Une haleine acridienne est une haleine qui sent la crevette. Un doigt acridien est un doigt qui...
sent la crevette.
Pas du tout. Un doigt acridien est un doigt dont la peau ressemble à l'écaille de crevette. Après, si vous avez le doigt qui sent la crevette, c'est à vous de gérer. En principe, avec du citron, ça part. Si ça part pas, demandez à la crevette. C'est vrai que les crevettes, elles ont la manie de se balader dans les bas-fonds. Et dans les bas-fonds, on y fait parfois des rencontres douteuses. C'est vrai, on se soucie rarement de la vie que peut mener une crevette, ce qu'elle fait la journée. Faut pas croire, elles ont pas toujours vécu mortes dans un pot transparent avec de l'eau salée. Ou encore congelée à moins 18 degrés dans des sacs plastiques. Non, la crevette a une vie. La crevette vit en bande. Qui l'eût cru, c'est assez. Oui. En bande, qu'elle soit grise, brune, bleue ou rose, elle est travailleuse. Certaines même n'hésitent pas à nettoyer de leurs parasites les poissons qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Vous avez déjà vu un poisson en train de se nettoyer le sprint? Ben non. Non, c'est la crevette qui s'y colle. Alors après, forcément, bonjour les odeurs. Sans compter qu'elle vit dans la menace permanente de se faire bouffer par une baleine à grande gueule qui passait par là. Et si je vous dis pas l'haleine de la baleine après un banc de crevettes? Enfin moi... j'aime bien la crevette, j'aime beaucoup la crevette, surtout en maillot. Mayonnaise, bien sûr.
C'est Bicolet. Alors. Acridien, n'est-ce pas? Pascal Lonfat, tel est l'adjectif. 4 réponses, je vous les répète. Marc Donnet-Monnet vous dit que acridien signifie non violent, pacifique. Mais on a compris que ce n'était pas la bonne réponse.
Oui, non, c'est. Ouais.
Frédéric Gérard.
Oui.
Hein, nous dit que acridien signifie moyen, sans grand intérêt, passable, nul.
Oui.
Pour Pascal Vincent, ce qui est acridien est relatif aux sauterelles et aux criquets. Et Kaya Guner nous a parlé de la crevette en long, en large et en travers. Acridien se rapporterait à la crevette. Oui.
Parce qu'un peu ouvert l'appétit, d'ailleurs.
Oui. Alors, j'hésite, mais je pense que cette fois, c'est juste, c'est Pascal Vincent.
Pascal Vincent, mais bien sûr, bravo. Acridien, A-C-R-I-D-I-E-N, tout simplement, veut dire qu'il est relatif aux sauterelles et aux criquets. L'agriculture malienne est souvent menacée par des invasions acridiennes. Et ça vient, il l'a dit d'ailleurs, Pascal, du grec ancien, acris, avec un K.
J'ai dit de mémoire.
Acridis, sauterelle. Autant pour moi. Bien joué, garçon. Et un deuxième point, donc, pour vous, Pascal Lonfat, que l'on applaudit vaillamment. Bravo. In my bags and off I go, already feeling sand under my toes. It's not the future and all the past, it's now or never, me here today at last. I'm singing a lullaby to this mess and no more sad songs. I press the pause button
should have known better, you're not the type to rely on. Well, I don't need you, I can also go out on my own. It's now or never, a lot of pleasure, you know. Oh, 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 now it is me time, oh, oh, just for me. If you want something from me, stand out.
Pascal Lonfa, vous êtes le vice-président de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. Vous êtes vous-même atteint de cécité, rétinite pigmentaire, c'est ça ?
Oui.
La maladie, maladie génétique de l'œil. Vous êtes né voyant ?
Oui, je suis né voyant. J'ai même conduit et je travaillais dans un laboratoire. Donc, vous voyez, les yeux étaient à l'époque très précieux et j'étais un grand fan de sport automobile.
Et alors, à partir de quel âge on vous a dépisté cette maladie
Alors, j'ai appris à l'âge de 20 ans que j'avais une rétinite pigmentaire. Mon frère aîné, qui est plus âgé que moi, l'avait déjà. Et puis, bon, ben, j'ai quand même pu passer mon permis parce que mon champ visuel était correct, je voyais encore bien. Et puis, j'ai fait tout mon service militaire, etc. Donc, vers 36 ans, j'ai perdu l'œil gauche. Non, vers 28 ans, pardon, j'ai perdu l'œil gauche. Et à 36 ans, l'autre œil a commencé à diminuer fortement. Et puis, à ce moment-là, ben, j'ai commencé à voir un petit peu en regardant de côté, en regardant, parce que la rétinite pigmentaire, c'est, en somme, c'est un tunnel à l'envers. On met une jumelle à l'envers dans un tunnel et puis on regarde. Et puis on voit, c'est un peu ça au départ. Et puis ça se referme jusqu'à ce que le champ visuel est complètement fermé. Voilà.
Alors, ça fait combien d'années maintenant ?
Alors maintenant, j'ai 56 ans. Donc, vous voyez, ça fait 20, 22 ans.
D'accord.
Vous pratiquez encore le tir hein, ou pas du tout ?
Alors j'ai fait du tir, oui. J'ai fait mon tir obligatoire jusqu'à l'âge de 36 ans.
Là, vous êtes aveugle, on peut dire.
Alors je suis aveugle, oui.
Mais là, pourquoi vous portez des lunettes ?
Ah, beaucoup de gens me posent la question. Les enfants sont beaucoup plus à même de répondre parce qu'ils disent...
Oh, ça va, hein ? Je peux poser une question comme ça ?
Parce qu'ils se disent souvent, tu mets des lunettes, monsieur, parce que tu veux pas te taper, percer ton œil. J'ai dit, ben c'est juste. On met des lunettes pour protéger son œil. Mes yeux bougent, mes yeux sont tout à fait plus ou moins sains et normaux.
Vous nous regardez, hein, c'est vraiment fascinant.
Par
ça.
Rapport, ben bien sûr, je regarde, j'écoute la voix, puis je suis. Ça, c'est une question de concentration, une question d'habitude. Et donc, je protège mes yeux avec mes lunettes pour ne pas les perdre. Si on se coupe un doigt, ben, le doigt est loin, l'œil, c'est la même chose. Et puis, il y a l'espoir de revoir un jour avec toutes les nouvelles technologies.
Oui, c'est vrai, hein, ouais, vous me disiez effectivement en antenne qu'il y a des choses qui se passent et qu'il faut effectivement garder l'espoir absolument.
Tout à fait.
J'aimerais juste préciser encore, Pascal Lonfa, que vous avez parlé de votre frère aîné qui a eu cette maladie. Vous étiez 8 enfants.
Oui.
Et 4 atteints de cette maladie des yeux, dont Claude Lonfa, que j'aimerais saluer, qui est un auditeur assidu des Décodeurs, copain notamment de Daniel Rosis, qui lui, a écrit un roman qui s'appelle Soleil Noir, qui témoigne d'un père donc, qui perd la vue, qui perd sa femme parce qu'elle-même a une maladie grave, qui perd un de ses deux fils qui est atteint de la même maladie, et en gros, c'est son histoire. Et c'est terrible, hein, il a déjà perdu la vue, il perd malin. Hein. Et il disait dans un article que néanmoins, qu'il n'était pas fâché contre son destin. Et qu'il ne considérait pas que le terme de victime lui allait. Enfin voilà. Donc c'est quelqu'un qui garde un moral incroyable. Vous êtes la même chose. Par la force des choses, où on réagit ou on s'enfonce.
Il y a deux solutions. Soit on réagit rapidement en disant ma foi n'est pas seule au monde, ou soit alors on s'enterre dans un. On s'enferme, on ne veut plus, voir personne, on ne veut plus rien faire. Et puis à ce moment-là, on reste anodin, alors qu'on a la possibilité au jour d'aujourd'hui d'être vraiment comme tout le monde, pratiquement. Il n'y a que le déplacement, il n'y a que ce problème-là, la mobilité, qui est la plus délicate pour une personne handicapée de la vue. Mais autrement, le reste, si on a un peu de courage, on peut faire beaucoup, on peut aller de l'avant.
Et vous l'avez fait notamment en étant justement très impliqué dans cette Fédération suisse des aveugles et des malvoyants, par exemple. Dans celle-ci et dans d'autres. Hein, vous êtes dans beaucoup d'associations qui concernent ce problème, je dirais.
Il a fallu que je décide tout de suite de m'adonner à quelque chose de concret. C'est pour ça donc j'ai été président de la section valaisanne de la Fédération suisse des aveugles. Après, bien entendu, il a fallu que je continue parce que j'avais pas assez. Donc j'étais nommé au comité central de la fédération. J'ai été à l'Union centrale pour le bien des aveugles à Saint-Gall. Je suis aussi au conseil de fondation des sourds aveugles, qui est une association qui est encore où les personnes sont encore beaucoup plus, je dirais, ont beaucoup plus de difficultés que les personnes qui sont simplement aveugles ou malvoyant. Donc voilà. Ensuite, voilà, j'ai représenté la Suisse aussi à l'étranger. Et je trouve que ça nous apporte beaucoup. On rencontre vraiment de beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Et puis chacun a sa petite histoire, chacun a son vécu et ça porte. Et puis je dois dire, chaque fois que je rentre, par exemple, d'un congrès international, je me dis, eh bien, en Suisse, on est bien encore.
Et notamment grâce à des personnes comme vous. Vous savez, Pascal Lonfa, que vous avez le droit de défier les décodeurs une fois par semaine. Une fois par jour, ça ira bien, je pense. Ça va
pas elle le faire. Elle est un peu mal comprenante. Il faut pas.
Rien à dire.
On peut la parailler.
Oui, alors donc, c'est le premier défi que vous allez lancer au décodeur. Je ne sais pas si on va rester dans le domaine de la cécité ou pas. À vous de voir.
On verra. Alors, le premier défi que je vais lancer à nos amis, les quatre décodeurs, qu'est-ce qu'un tiflophile ?
Allez-y les garçons, un tiflophile.
Tiflophile.
C'est un rapport avec la vue ou...
Est-ce que c'est avec la typo
Tu permets qu'il réponde à ma question
Vous avez été coupé au montage, on l'apprend.
Ouais, ouais, sans rapport avec la vue, oui.
Ah, tu vois qu'on avance grâce à
c'est
moi.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors avec la vue, c'est peut-être les sourcils, parce que les sourcils, ça sent un petit peu des tifs, hein. C'est un peu comme les... Et donc, alors, ils sont lophiles ou pas lophiles, on dit souvent.
Lophiles, comme les... Oui.
Non, type, ça n'a pas à voir avec les sourcils.
Les sourcils, non.
Je repose ma question que j'ai posée un peu trop rapidement. Ouais, est-ce que ça ça s'écrit typho un peu comme typo
Alors,
typographie, typho.
T-Y et deux fois PH.
D'accord. Comme ça.
Deux fois PH de suite.
Non, tiflophilie. J'ai abrégé.
Une tiflophilie. C'est l'amour de quelque chose, mais quoi ? Ouh, on progresse.
Ouh là là.
C'est l'amour.
C'est pas le fait de d'écrire en braille. Ça n'a rien à voir. C'est pas ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec ça. Ne partons pas.
Si, mais ça a à voir avec la vue.
Oui, ça a à voir avec la vue.
Non, mais attendez.
Non,
mais c'est... Attends. Alors nous, on fait durer le plaisir parce qu'on connaît très bien la réponse.
Oh, ouais.
On donne un peu de suspense, on fait semblant de pas savoir.
Ta.
Alors, on chauffe un
on vous écoute, Pascal Lonfa.
Marc Donnet-Monnet était assez près, puisqu'il a dit savoir que l'amour, mais comme Pascal Vincent l'a coupé, j'ai pas pu répondre. Alors, au début du 20e siècle, on disait... Il faut plaindre les aveugles. Et il y a un écrivain dont j'ignore le nom, enfin je ne l'ignore pas, mais je ne me souviens plus le nom, a décidé qu'il fallait aimer les aveugles. Et c'est pour ça qu'il a dit le tiflophile, qui aime les aveugles. Et dans tout ce qui touche les organisations et tout ce qui touche le domaine de l'handicap visuel, on dit le domaine de la tiflophilie. Voilà.
D'ailleurs, on
apprend ça.
Mais attention, parce qu'on dit également que l'amour rend aveugle.
C'est l'amour. Ouais. Ouais. Oui, l'amour rend aveugle, c'est un fait, oui.
C'est un fait. Mais alors là, on est tous à la même enseigne.
En aimant les aveugles, on risque à son tour de... Oui,
mais tant qu'on aime. Et trop d'amour nuit.
Non, jamais. Oui.
Ah oui. Et la nuit siète.
Étant donné que je ne suis pas regardant, moi j'aime l'amour.
Ça serait une jolie conclusion pour aujourd'hui. Vous avez gagné votre point et votre troisième, en l'occurrence, ce défi. On va s'attabler. Manger les yeux fermés au petit pois carotte, à compter, bien entendu, et on s'y retrouve demain. Ça marche ?
Ça va très bien, à demain.
Salut tout le monde ! Ciao !
Les décodeurs, avec les 20 heures de musique de Romont, samedi 22 septembre, et les banques Raiffeisen. L'heure, avec Retraite Populaire et ses solutions de prévoyance, retraitepopulaire.ch.